Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco!
Cacca in percussione, Sciacca all'ingresso in area ancora, Cacca, davanti al portiere, Cacca! Rete, Cacca!
Pallone che arriva, Trezeguet! Davi! Trezeguet! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Per tutti noi Matador, ci prova con il destro,
si gonfia la rete, Matador, mamma mia Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 13e épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Comme chaque semaine, je suis avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
Salut Johan, salut à tous.
Alors Guillaume, on a encore un programme assez riche pour ce 13e épisode.
Pour changer.
Puisqu'on a encore eu de beaux chocs ce week-end en Serie A. On va donc dérouler le sommaire assez rapidement. On va commencer par un premier bilan de l'arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juve, parce que ça fait un peu plus de deux mois de compétition et on commence déjà à voir certaines choses intéressantes.
Ouais.
Un deuxième sujet qui concerne la Roma, qui part d'une citation de Beppe Bergomi hier à Sky Italy et qui nous a permis de dégager un sujet sur est-ce que cette Roma qu'on voit depuis le début de la saison est bien celle de Di Francesco, dans le sens où on voit pas grand chose des préceptes et des habitudes de Di Francesco dans cette équipe. En troisième sujet, on reviendra sur le Milan et le 4-4-2 enfin testé. C'est quelque chose qu'on réclamait depuis des semaines. Une association coutronnée, Higuain à la pointe de l'attaque des Rossoneri. Le quatrième sujet, on va déborder un peu sur le foot espagnol, puisqu'on va évidemment parler quand même de l'Italie dans ce sujet.
Ouais.
Et une éventuelle arrivée d'Antonio Conte au Real, ce que ça pourrait apporter, et puis quelles sont les chances de le voir arriver au Real Madrid. Et puis enfin, un dernier sujet sur la Lazio, qui vient, puisqu'on enregistre ce podcast lundi soir, qui vient de s'incliner sur son terrain face à l'Inter, un score assez lourd de 3-0 pour les interistes, et une mauvaise habitude de la Lazio à rater totalement ses matchs contre les grosses écuries de ce championnat. Alors Guillaume, je te propose de commencer par Cristiano Ronaldo. Alors on n'en a pas trop fait jusqu'à présent dans ce podcast sur le joueur portugais, parce que bon, on attendait aussi de voir un peu au-delà de son arrivée, de l'énorme coup médiatique. On attendait d'avoir un peu plus de recul sur ses performances et puis avant d'en parler évidemment, de voir ce qu'il allait faire sur le terrain, en quoi il allait contribuer à l'amélioration du jeu de la Juve ou tout simplement au bon résultat de la Juve. Et donc là, ça fait 10 matchs, il a joué les 10 matchs de Serie A. Alors évidemment, avec Cristiano Ronaldo, c'est 10 titularisations, 0 fois sorti en cours de jeu. Voilà, c'est la superstar. Il est venu pour être la superstar de l'équipe. Je te propose, Guillaume, de commencer par un petit bilan stat assez rapide.
Bah oui, allez.
Pour qu'on puisse un peu présenter le sujet. Alors, il est à 10 titularisations en 10 journées, 7 buts, 4 passes décisives. Et donc, si on calcule assez facilement, il est impliqué dans plus de la moitié des buts de la Juve en Serie A cette saison. Ça, ce sera la première partie. Et puis, on a d'autres stats qu'on étayera au fur et à mesure de la discussion. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Guillaume, de... Des premiers pas, on va dire, depuis deux mois de Ronaldo à la Juve?
Bah, que dire de Ronaldo à la Juve? Déjà, une adaptation très rapide. C'est vrai qu'il n'a pas mis beaucoup de temps à s'acclimater à cette nouvelle réalité. Parce que bon, quand tu viens du Real Madrid après tant d'années, après un départ assez rocambolesque, pour des raisons voilà que voilà, on commence à connaître, avec le président Pérez, voilà, ça se passait plus super bien. C'est vrai qu'on aurait pu se dire, bon, le temps qu'il arrive en Serie A, qu'il se mette dans le moule de la Juve. Et en fait, bon bah, la mayonnaise a pris tout de suite. On sait qu'il y a eu 2-3 matchs, tu te rappelles, en début de saison, c'était un peu plus compliqué. Ah, le temps de prendre ses marques, il n'avait pas marqué. Et puis une fois que c'est débloqué, bon bah, voilà, c'était rapide. Il y a eu ce petit point noir à Valence quand il prend rouge. Oui. Mais en Serie A, voilà, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus c'est, comment dire, plus c'est monstrueux. À Empoli samedi, c'est un doublé quand voilà, que tu perds 1-0. Il te sort une frappe nulle part sur un partout. Tu vois, l'année dernière, c'est typiquement ce match que la Juve aurait pu faire un match nul comme ça. Ça aurait pas été scandaleux. Sauf que là, bah, t'as Ronaldo. Et bah, il fait la différence tout de suite. C'est incroyable. C'est ce genre de joueur qui n'est pas de la même planète que nous et qui te permet de te sortir des travers de certains matchs un peu pièges, comme à Empoli samedi. Et voilà, moi, ce que je retiens, c'est surtout le fait qu'il s'est adapté très vite et que, bah, il a pris son rôle, voilà, il s'est pas défilé récemment. On le savait qu'il aime ce statut de leader et c'est pas étonnant de le voir à ce niveau-là, mais voilà, il est déjà décisif. Enfin, ça fait, comme tu dis, ça fait 10 titularisations, et il est déjà décisif. Donc, bon, s'il continue comme ça, je crois qu'on l'avait mis en nos meilleurs buteurs.
Bien sûr.
Est-ce qu'on l'a mis, ouais, oui, il me semble qu'on l'avait mis en nos meilleurs buteurs, donc.
On n'avait pas été très, on va dire, original
oui,
sur
oui,
ce
Oui, c'est vrai. Mais voilà, ce que je retiens surtout, c'est le fait que, bah, voilà, au bout de 10 journées, il est déjà à un niveau assez élevé.
Alors, tu parlais de son adaptation. On précise quand même qu'il n'a pas joué avec le Portugal en septembre et en octobre.
Pour l'adaptation, ouais.
Voilà, pour son adaptation, sa condition physique aussi qu'il fallait retrouver puisque on sait qu'il a coupé après la Coupe du Monde. Et que bah, l'âge avançant aussi, il a besoin d'un peu plus de temps pour se remettre en route. Pourtant, c'est un bourreau de travail et on sait qu'il ne plaisante pas avec la préparation invisible, avec faire attention à tout ce qui est alimentation, travail musculaire, etc. Mais les années passent aussi pour lui. Il faut un peu plus de temps pour mettre du carburant dans les jambes pour toute la saison. Et le fait qu'il ait décidé en accord avec son sélectionneur de ne pas faire les deux derniers stages, bah, lui a permis de gagner aussi un petit peu de temps, plutôt que de partir 15 jours avec une dizaine de jours avec sa sélection, de rester à Turin, de même de se familiariser un petit peu plus avec l'environnement du club, c'est évidemment une bonne chose, et ça permet évidemment de d'accélérer son adaptation et son acclimatation au championnat. Sur le jeu en lui-même, ce qui est notable dans les chiffres qu'on a pu compiler des premières journées de Cristiano Ronaldo, alors déjà il y a un chiffre qui est assez étonnant parce qu'on n'a pas forcément l'habitude en Serie A. Alors ceux qui suivent la Liga évidemment ne seront pas surpris, mais c'est le nombre de tirs tentés par Cristiano Ronaldo. Il en est déjà quand même à 78, il est quasiment à 8 tirs par match. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le deuxième en championnat, alors c'est un duo qui est à la deuxième place, c'est Dzeko et Insigne, ne sont qu'à 43, donc quasiment la moitié de Cristiano Ronaldo qui en a tenté 27 en dehors de la surface. Alors là, ça a marché à Empoli du coup, puisque sa frappe est lumineuse et elle rapporte des points, mais c'est vrai que c'est un joueur qui déclenche très vite, qui a ce petit côté égoïste. Alors c'est paradoxal, parce que je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je trouve peut-être un peu moins égoïste qu'au Real. Je trouve qu'il essaye plus de combiner avec ses partenaires. Et ça, c'est peut-être lié au fait aussi qu'il n'arrive pas comme un conquérant et qu'il n'a pas ce statut-là encore à la Juve et qu'il peut-être qu'il essaye de, voilà, de se faire bien voir de tout le monde et de, d'acquérir son statut petit à petit. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un joueur qui déclenche très vite et dès qu'il a une opportunité de frappe,
on l'a vu samedi,
il l'attente, ouais.
Mais comme tu dis, moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait du collectif. Il est pas là pour faire son show. Il est pas là, voilà, il arrive pas sur le terrain pour faire ses dribbles. Bon, certes, il en fait toujours deux ou trois parce que voilà, on le connaît. Mais il est pas là pour mettre son triplé, son quadruplé. Alors s'il marque, c'est bien, il est content. Mais tu le vois même quand la Juve marque. Même si c'est un coéquipier, tu vois son comment il est, comment il exulte. Tu sens qu'il est vraiment intégré à ce collectif. Et de toute façon, c'est très bien qu'à la Juve, tout Ronaldo qu'il est, il sera jamais plus grand que le club. Et ça, c'est la Juve fait tout de suite comprendre à ses nouveaux joueurs. C'est que aucun joueur, même si c'est Ronaldo, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, c'est un fait. Mais jamais aucun joueur sera plus grand que la Juve. Et du moment qu'il est sur le terrain, comme tu dis, il pense collectif, il vit collectif. Alors certes, toujours ce côté un peu individualiste qu'on peut pas lui reprocher parce que ouais, il est fait comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, c'est ça qui a fait sa réputation et sa grandeur. Mais je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est un joueur qui est très collectif et qui fait, en plus, il fait bien jouer ses coéquipiers parce que toi, t'as vu dans les déviations, oui. On se rappelle en début de saison, c'était un peu plus compliqué. Et là, voilà, il y a les automatismes qui se créent et on sent vraiment que voilà, la mayonnaise prend et ça fait à peine 10 matchs. On est au mois d'octobre. Enfin, on est fin octobre. Donc, imagine-toi que ça va être, on va arriver en février, mars. C'est là qu'on va l'attendre vraiment. Parce qu'on sait que c'est, voilà, la Ligue des Champions, c'est l'objectif de la Juve. Et c'est surtout à ce moment-là qu'on va l'attendre au tournant. Parce que, voilà, le but, c'est de gagner la Coupe Grande Zorès cette année pour la Juve.
Alors, dans notre bilan statistique qu'on a compilé, un des facteurs de collectif qui est assez intéressant, c'est qu'il cherche à jouer avec ses partenaires et notamment ses partenaires d'attaque. Et si on prend la stat de passe clé par exemple, le total, on va pas le prendre par 90 minutes, mais si on prend le total déjà réalisé en Serie A, il est déjà à 17 passes clés, il est dans le top 15 de la Serie A aux côtés de joueurs comme Insigne ou de milieu de terrain et d'ailier qu'on imagine un peu plus collectif et moins égoïste que Cristiano Ronaldo. Et si on regarde par exemple la saison 2016-2017 au Real Madrid, il avait fait 31 passes clés en 29 matchs. Là, en 10 matchs, il en est déjà 17. Donc, une simple règle arithmétique fait qu'il est sur une base de 50 quand il en faisait 31 et 38 au Real Madrid. Ouais, donc, c'est vrai qu'il a ce côté-là. C'est vrai que au Real, on avait l'impression parfois de le voir un peu ronchon, très tendu, sous pression, etc. Et là, on le sent vraiment libéré. Moi, je l'ai rarement vu.
Un côté revanchard par rapport, parce que voilà, il l'a dit, d'ailleurs, il le dit demain mardi dans France Football, où il dit, c'est vrai qu'au Real Madrid, Pérez, à la fin, il m'a dit clairement que j'étais plus indispensable. Donc, est-ce que tu penses aussi qu'il, ouais, il a un sentiment de revanche par rapport à comment il a quitté le Real?
Sans doute, mais je pense qu'aussi que c'est un joueur, comme les grands, c'est qu'il marche aussi à ça, c'est-à-dire que, la force de caractère et le besoin de toujours prouver à quelques personnes, que ce soit ton ancien président, d'anciens coéquipiers, d'anciens amis, peu importe, ou à des coéquipiers actuels ou des journalistes, ou voilà, on sait que c'est des joueurs qui marchent aussi à ça et qui ont besoin de ça aussi pour avancer, de se créer des espèces de rivalités, de difficultés qui les font avancer. Donc sans doute que cet état d'esprit là, cette revanche qu'il veut asseoir sur Pérez le fait avancer aussi, et dans sa tête il doit aussi se dire qu'il faut tout faire pour prendre cette revanche là évidemment.
Et c'est surtout un gros bosseur aussi, hein, parce que on le dit pas parce que c'est quasiment une évidence. Mais depuis qu'il est arrivé à la Juve, si tu lis un peu toutes les interviews des coéquipiers, si tu interroges Allegri, tu vois ses conférences de presse, il aura toujours un mot pour te dire, bah, Ronaldo, c'est un gros bosseur, malgré la carrière qu'il a eu et qu'il va avoir encore. Et ben, bah, il bosse tout le temps, c'est le premier entraînement, c'est le dernier à partir. Enfin, c'est des trucs tout bêtes. Mais chaque joueur qui s'entraîne avec lui te le dira. Donc, c'est aussi, malgré son âge, malgré le fait qu'il a tout gagné dans sa carrière, il a 5 Ligues des Champions. Et pourtant non, il se remet en jeu. C'est aussi un choix courageux d'être venu à la Juve parce qu'il aurait pu rester au Real. Hein, c'était pas. Et non, il se remet en jeu à la Juve. Alors ça, c'est pas un petit club, mais il fallait aussi avoir le courage de le faire. Et voilà. Et cette année, il a une mission, c'est faire gagner la Juve en Ligue des Champions. Il met ça sur ses épaules à lui parce que c'est vrai qu'ils l'ont acheté pour ça. Il le sait. Et c'est vrai que moi, je suis curieux d'arriver en février-mars parce que bon, la Juve est déjà qualifiée quasiment pour les huitièmes. Donc c'est là qu'on va l'attendre, mais
et on verra si ça libère aussi d'autres joueurs qui avaient cette pression là.
Oui,
c'était
oui,
plus le
vrai.
Collectif qui avait cette pression là de performer en Ligue des Champions les autres années, et là le fait que Ronaldo prenne beaucoup de cette pression sur ses épaules,
oui,
à la fois dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, puisqu'il l'affirme lui-même, mais aussi médiatiquement, et on sait que c'est important, la pression médiatique, de savoir la gérer dans les moments clés. Peut-être que ça va permettre à d'autres joueurs qui ont un peu moins de caractère, on va dire, de jouer un petit peu plus libéré, de moins ressentir la pression que prendra Ronaldo.
Ouais. Et d'ailleurs, ce que tu dis, ça peut aussi être se transformer sur le terrain, parce que c'est vrai que Ronaldo sur le terrain attire beaucoup de joueurs, il attire beaucoup d'adversaires, et c'est vrai que le fait de canaliser aussi l'attention, parce que voilà, à chaque fois qu'il prend le ballon, c'est pour nous, c'est une nouveauté en Serie A, parce que voilà, c'est vrai que c'est l'attraction, c'est toujours l'attraction, ça fait 10 journées, mais c'est vrai que bon, quand tu vois Ronaldo à Empoli, c'est toujours un peu particulier, et c'est vrai que bon voilà, même les joueurs en face, voilà, on sait qu'ils sont un peu, je vais pas te dire impressionné parce qu'ils font le même métier, mais c'est sûr, forcément, t'as un peu les yeux groggy quand tu vois Ronaldo devant toi. Et c'est vrai que rien que ça, ça peut te libérer l'espace pour Dybala, pour Douglas Costa, pour d'autres joueurs, pour Malardeschi. Et c'est vrai que, voilà.
Mais justement, dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'il attire le ballon, il attire tout, la lumière, etc. Mais le jeu de la Juve s'en ressent pas vraiment.
Ah non,
c'est-à-dire que
ouais.
Il est toujours aussi fluide dans les transitions offensives, dans les constructions lentes, ça a pas forcément changé beaucoup de choses à ce niveau-là pour le moment. Alors évidemment, il y a des combinaisons qu'on voit sous un autre angle désormais entre les joueurs offensifs. Ce qui est vrai, et ce qu'on a déjà dit dans des podcasts précédents, c'est qu'on a du mal encore à voir le trident offensif de manière régulière être performant ensemble. Ça, je pense que ça prendra du temps, parce qu'on joue pas avec Cristiano Ronaldo comme on joue avec Douglas Costa. Et évidemment, c'est plus compliqué. Mais pour le moment, ça change pas. Ça change quand la Juve n'a pas le ballon, puisque Ronaldo ne défend pas. Donc il y a un travail des autres joueurs de compensation qui est important. Mais quand la Juve a le ballon, elle est tellement de toute façon au-dessus des autres adversaires en Serie A et pour le moment en Ligue des Champions, qu'on ne voit pas vraiment de différence, moi je trouve, notable dans le jeu de la Juve cette saison.
Oui, c'est vrai. Mais aussi, voilà, je pensais à ça. C'est vrai que tout à l'heure, quand je disais l'interview, enfin les extraits de l'interview à France Football, voilà, on est obligé de revenir aussi 30 secondes voilà, sur les accusations qu'il y a. Voilà, sur lui, on sait qu'il est accusé de viol. Quand je disais ce qu'il disait, il disait qu'il était très affecté, que ça l'a touché, qu'il avait une famille. Et honnêtement, quand tu lis ses paroles, tu sens que ça l'a touché. Et sur le terrain, on va pas se mentir, c'est vrai que tout le monde a regardé le premier match après l'accusation, parce que voilà, c'est forcément c'est un fait.
Bah c'est très lourd.
C'est très lourd à porter. Enfin c'est très grave. Et comme il dit lui, il dit j'ai des enfants, j'ai une mère, j'ai une famille. Enfin c'est dur à porter. Et sur le terrain, alors certes au vu du contexte, c'est sûr que c'est secondaire, j'ai envie de dire, mais ça s'en est pas ressenti du tout. Jamais il a été, toi-même, il aurait ici marre, il aurait pu faire un geste ou un geste du silence, un truc tout bête. Et non, très professionnel, il a continué à faire son jeu, ça l'a pas perturbé, il a été très pro. Malgré ça, malgré le fait que ça le touche, comme lui il dit, sur le terrain, honnêtement, il a été parfait. Donc après voilà, écoute, Ronaldo, je pense qu'on a fait le tour. Moi, est-ce qu'on est surpris du début de saison qu'il fait ?
Non.
Non.
Après, il y a une vraie montée en puissance.
Voilà.
C'est ce que tu disais par rapport au début. C'est vrai qu'il a eu un peu de mal. Il n'a pas manqué pendant 3 journées, je crois. Si
ouais,
je
tu te rappelles les 3 matchs. Ouais, ouais, ouais.
Et là, la Juve a donné une stat aujourd'hui. Il reste bien impliqué sur 10 des 14 derniers buts de la Juve. C'est-à-dire 7 buts marqués et 3 passes décisives. Donc évidemment qu'il y a une vraie montée en puissance. De ce point de vue-là,
l'impact est dingue. Hein.
Et même si c'est pas encore notable en Ligue des Champions, puisque le match, il y a déjà eu le carton rouge à Valence. Là, le match contre, on va voir ce que ça va donner le match contre Manchester, etc. Mais enfin, il y a déjà eu l'aller où il a joué, mais on verra le retour. Bon, pour le moment, en Ligue des Champions, ça reste encore assez light par rapport au standard auquel nous sommes habitués.
Oui, mais de toute façon, on sait très bien que la Juve, même sans lui, ils ont gagné la Serie A, parce que ça fait 7 ans qu'ils la gagnent.
Oui.
Honnêtement, ils avaient besoin de Ronaldo pour continuer à la gagner. Je pense que c'est pas leur premier souci. C'est évident que Ronaldo, on le répète, il a été pris pour le gagner avec des champions, parce que c'est vraiment le rêve de la Juve. Ils en sont à deux finales de suite perdues. C'est très dur, ils ont perdu 7 dans leur histoire. Voilà, c'est vraiment un tabou qu'ils ont envie d'effacer. Et Ronaldo est acheté pour ça. Il n'est pas venu pour gagner le Scudetto, pour gagner la Coupe d'Italie. La Juve s'en sortait très bien sans lui. S'il est là, c'est pour gagner avec des champions. On sait très bien que voilà, Ronaldo, il en a gagné 5, donc il sait comment ça se passe. Hein. Et il sait que c'est au mois de mars, avril, à partir de là, qu'il va falloir carburer avec les champions. Mais comme tu dis, pour le moment, c'est vrai que les champions, il est encore un peu en dessous. Et moi, je ne doute pas que voilà, ça peut aussi monter en puissance tranquillement comme il le fait en championnat.
Et on va conclure ce point Ronaldo et Juve quand même par une petite précision. On va quand même noter le travail. On l'a déjà fait, je crois que c'était il y a 2 podcasts et même lors du dernier. On va quand même noter le jeu d'Empoli qui a accueilli la Juve ce week-end, qui a fait une très très belle première mi-temps.
Benacer très bon.
Avec beaucoup d'intensité, des occasions. Ils ont beaucoup gêné la Juve dans la sortie de balle. Ils ont été très très vite vers l'attaque, notamment en passant sur les côtés. Et c'est vrai que ça a été une belle... On va pas dire que c'est une surprise, puisque on a bien vu comment Empoli jouait, oui, ils avaient beaucoup gêné la Roma, mais bon, c'est quand même la Juve. Donc, mais ce qu'on voit cette saison, c'est quand même aussi que même les petites équipes, entre guillemets, comme Sassuolo ou comme Empoli, ne font pas de complexe face à la Juve et continuent à jouer comme contre les autres équipes du championnat. Et ça, c'est vrai que c'est très agréable.
Mais comme tu dis, ils dénaturent pas leur jeu. Enfin, combien de fois on a vu des clubs qui jouaient bien au foot, mais une fois qu'arrive la Juve, bon bah voilà, on met le bus et puis bah on espère gagner le nul. Et là non, comme tu dis, c'est-à-dire Sassuolo, tu te rappelles à Turin,
oui.
Et là, ils y sont pas allés avec le bus, ils ont fait des erreurs, mais ils ont joué comme ils savent jouer. Et là, Empoli a fait pareil, comme tu dis, ils les ont bousculés dans le pressing, ils ont dans l'intensité, ils ont gagné beaucoup de duels. Moi, j'ai trouvé Benacer très intéressant sur ce match, c'était très très bon. Et mais moi aussi, j'étais content parce qu'en Grazioli, on sait que c'est un bon entraîneur, il a été l'adjoint de Spalletti pendant quelques années. Mais voilà, ils ont joué leur football qu'ils avaient déjà gêné Milan, hein, tu te rappelles, ils avaient fait un partout. La Roma gagne 2-0, mais c'était pas non plus c'était poussif.
Très poussif.
Très poussif. Et là, c'est vrai que bon, on aurait pu penser, bon, la Juve arrive, ils vont mettre le bloc. Et en fait, non, ils ont joué au foot, jeu de possession, ils sont passés par les côtés, comme tu dis, ils ont beaucoup gêné la Juve. Le 2-1, bon, bah voilà, c'est tout bel Ronaldo, on l'a assez répété, il sort du pétrin. Honnêtement, Empoli, à chaque week-end, on le dit, chaque podcast, on le répète, suivez les matchs d'Empoli pour ceux qui ne suivent pas la Serie A, parce que c'est vraiment un football agréable à suivre. Et on l'a encore vu samedi contre la Juve.
Alors, un football un peu moins attractif et intéressant depuis le début de la saison, du côté de la capitale et de la Roma. Alors, l'idée du sujet m'est venue en voyant les réactions en plateau de Sky.
Hier soir.
Exactement dimanche soir, après le match, où BP Bergomi, qui est consultant connu, entre guillemets, ancien très grand joueur évidemment, mais maintenant c'est une tête d'affiche de Sky, voilà, c'est le mot que je cherchais depuis quelque temps. Et lui qui expliquait, après la performance de la Roma à Naples, alors si on s'en tient au strict résultat, c'est une performance plutôt bonne de ramener un point de Naples, parce que voilà, c'est des déplacements qui sont compliqués, et puis c'est un concurrent direct, même s'il y a déjà un écart important de classement. Mais par contre, si on regarde sur le plan du jeu, c'est vrai que c'est très très pauvre, et c'est vrai qu'on a du mal à reconnaître la patte de Di Francesco. On sait pourtant que c'est assez facile, parce que les préceptes, on les connaît. Ses idées, on les connaît, son schéma, on le connaît. Alors déjà, la première chose, c'est que cette saison, il a abandonné son 4-3-3. Donc déjà, c'est effectivement une première marque
de révolution,
voilà, de changement. Et puis, par contre, c'est vrai que autant Di Francesco, on sait que à la récupération du ballon, il aime que ses ailiers aillent très vite chercher la verticalité, qu'il aime bien que ses milieux relayeurs accompagnent les actions, etc. Sauf qu'on ne le voit pas du tout cette saison à la Roma. Et puis là, le point, on va dire, culminant de cette observation-là, c'est ce match à Naples où c'était vraiment très compliqué, où il n'y a pas eu grand-chose. On peut faire un bilan
après
stat,
but,
hein,
ouais.
63% de possession pour le Napoli, 26 tirs à 8, 17 corners à 3.
Ah, les corners, ouais.
C'est, voilà, ça a été une domination sans partage de Naples. Et c'est vrai que la Roma n'a même pas tenté de contre-attaque, entre guillemets, ou de système de transition assez rapide vers l'attaque. Les ballons étaient perdus très rapidement, ou alors ça jouait entre défenseurs et ça.
Est-ce que tu penses que le but leur a porté préjudice?
Non, je pense pas. Non, je pense que.
Je pense qu'ils ont fait le même match à 0-0.
Ouais, je pense que vraiment ils sont dans le dur. Là, c'est clair. C'est pas les matchs contre Pilsen ou le CSKA ou. Voilà,
c'est
où ça a été
des
matchs un peu en trompe-l'œil, puisqu'il y a beaucoup de buts marqués, mais c'est vrai que la Roma est en difficulté dans le jeu cette saison, et même aussi un peu dans le caractère. On en parlait la dernière fois, c'est vrai que ça correspond pas tout à fait à ce que Di Francesco veut. Il le répète d'ailleurs bien volontiers en conférence de presse d'après-match, sauf que pour le moment, il trouve pas la clé. Et il va falloir la trouver, puisque là, ils sont déjà 7 points de la 3ème place. Donc ça
ouais.
commence à être un écart
de toute
très,
façon,
très important.
Ça va jouer avec Milan et la Lazio. Hein,
sauf
la 4ème place.
Retournement de situation.
Ouais.
Voilà,
on peut faire 3 blocs. La Juve, Inter, Napoli peut-être pour la 2ème place. Et après, Lazio, Roma et Milan éventuellement
ouais.
pour la 4ème place.
Mais c'est vrai, pour revenir à ce match-là, que... Là, on a vu des joueurs empruntés qui certes se sont battus pour essayer de conserver le score, mais c'était évident que ça allait craquer à un moment donné, sachant en plus que tu perds De Rossi et Manolas en cours de jeu.
Le changement de De Rossi a fait mal, hein.
Sur blessure, évidemment, le ballon
ouais.
circulait un peu mieux avec De Rossi qu'avec Cristante, qui a encore beaucoup beaucoup de.
Moi, Cristante, je trouve très lent à verticaliser. Il y a
ouais.
trop que De Rossi. Bon, on le connaît De Rossi, mais tu vois, Cristante en deuxième mi-temps, j'ai trouvé vraiment lent. Dans la verticalisation, dans les idées, toujours trop lent, il y a toujours un temps de retard. Et c'est vrai que ça a terriblement, terriblement affecté le jeu de la Roma.
Ah, ça
et
décharge, voilà, c'est pas son poste hein, de
ouais.
jouer en double pivot.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Et même Manolas, sa sortie a pas été, parce qu'il avait fait un bon match, Manolas.
Oui.
Pour le coup, il avait été bon. Donc, c'est vrai que les deux blessures ont pas été à l'avantage de la Roma.
Surtout que ces deux enfin, leaders, en termes de caractère, et comme ça en manque déjà, même quand ils sont là, c'est vrai que c'est difficile.
Mais tu te rappelles quand ils perdent contre la Spal à Rome, moi j'ai cette image de Kolarov et De Rossi dans les tribunes.
Oui.
Et c'est là que tu comprends le manque de caractère que peut avoir l'équipe sur le terrain si t'as pas tes leaders. Et comme tu dis hier, c'est vrai que, honnêtement, enfin, moi je me suis dit, c'est une question de temps avant qu'ils égalisent. Puis arrivé à la 85e, bon, je me suis dit, bon, il y a des jours comme ça où tu peux essayer 20 fois de marquer. Je sais même plus, il y a eu combien d'hors-jeux. Il y a eu, bien 10 hors-jeux du côté de Naples, mais, à la fin, c'était évident que ça allait craquer. Après, c'est vrai, comme tu dis, la Roma hier, c'était pas le jeu. Bergomi, il a raison. C'est pas le jeu de Di Francesco, on le reconnaît pas. C'est pas le jeu de possession, ça passe pas sur les côtés. Hier, c'était vraiment un jeu minimaliste. Voilà, il faut le dire, pour le coup. C'est assez minimaliste.
Ouais.
Et c'est vrai, bon, il faut le reconnaître aussi, hein, de temps en temps, hein. Il faut bien le dire que.
Mais je sais même pas, tu vois, si c'est minimaliste, parce que j'ai l'impression qu'il y avait même pas d'idée directrice, en fait. C'est
ouais.
vraiment, tu vois, plus que minimaliste, on n'était pas loin du néant, en fait. Hier.
Pas d'idée du tout.
Ouais, voilà, exactement. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu plus inquiétant. Et puis,
Zeko a pas été mauvais. Je sais pas comment tu l'as trouvé. Zeko était un peu moins mauvais. Enfin, pas mauvais. C'est-à-dire que j'ai trouvé moins catastrophique
que contre
certains matchs. Ouais, certains matchs où. Alors, je sais pas si je compare par rapport à ça. Mais hier, toi, je lisais un peu les notes, un peu dans la Gazzetta, dans le Corriere, où c'est vrai qu'il était plutôt bien noté. Moi, je l'ai pas trouvé affreux. Après, il y a cette action sur le penalty, vrai faux penalty où il tombe.
Ouais.
Voilà, où il aurait pu mettre le deuxième. Mais je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé que c'était le pire. Pour prendre
non, mais en fait, si tu veux, il y a, hormis Kolarov qui fait la bévue sur le but
ouais.
de Mertens, qui lâche le marquage, mais tu peux pas dire que les joueurs de la Roma se sont passés à côté de la rencontre. Parce qu'ils se sont battus pour conserver le score.
Exactement. Ouais.
Le vrai souci, c'est qu'ils n'ont rien proposé à la fois individuellement et collectivement. Et ça, c'est quand même plus délicat parce que on voit pas de progrès là en 2 mois depuis le début de la saison et on observe même, et ça c'est plus inquiétant, une régression par rapport à la saison dernière. Donc,
Est-ce que tu penses que c'est pas le fait d'affronter Naples, du coup, voilà, Naples qui avait fait un bon match au parc. Est-ce que Francesco s'est pas dit bon, si je ramenais, parce que c'est, clairement, il était content de ramener un point.
Bon, je sais pas parce que, alors je l'ai pas sous les yeux, mais il me semble que l'année dernière, quand la Roma va jouer sur la pelouse de Naples, ils sont aussi en difficulté. Oui. Ils sont aussi en difficulté, en crise un petit peu de résultats. Ils gagnent 4-2, si je dis pas de bêtises.
Ouais, oui.
Et donc, tu vois, je suis même pas sûr que ça soit ça. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment la continuité de ce début de saison où c'est très compliqué, et à la fois dans le jeu, sur certains matchs, au niveau du caractère aussi, et pour le moment, tu vois pas trop le bout du tunnel.
Alors là, tu vois,
j'ai retrouvé là, du coup, tu vois, le match de Naples, et il venait d'une défaite à Donetsk en huitième de finale aller 2-1, où ils avaient été largement dominés dans le jeu, et puis la défaite 2-0 à domicile contre Milan avant d'aller à Naples, et ensuite ils recevaient le Shakhtar pour le match retour. Donc voilà, l'adversaire, on peut en parler quand même 2 minutes. Évidemment, Naples est à un niveau très au-dessus en termes de jeu, de cohésion, de comment dire, de richesse dans le jeu.
Ils sont en avance, quoi.
Ils sont clairement en avance. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la déception de Mertens au coup de sifflet final à Sky, pour lui était quasiment une défaite. Alors il a pas expliqué pourquoi. Ce qu'on peut imaginer, c'est que il espérait mettre définitivement out la Roma de la course à la Ligue des Champions.
Parce qu'il voulait jouer surtout, hein. Il voulait jouer, hein.
Il y avait ça aussi. Ouais. Et puis il y a aussi le fait que là, avec un match nul, l'Inter revient à hauteur aussi de la deuxième place. Donc, tout en concédant encore 2 points sur la Juve et un écart qui grandit. Donc, voilà, il y avait beaucoup de déception chez Mertens, beaucoup plus de satisfaction chez Ancelotti.
Oui.
Résultat à part. Puisque évidemment le match nul, il était un petit peu déçu du résultat, mais il avait beaucoup aimé la prestation, et il a raison, c'était dans la digne lignée de ce qu'a fait Naples à Paris.
Oui, pour le coup, oui, j'ai trouvé Naples aussi, voilà, on est plus surpris maintenant du jeu du Napoli, encore moins après la prestation au parc. Après, pour mettre les 2-3 bémols, c'est vrai que j'ai trouvé que ça manquait un peu de créativité quand il signait en dessous. Voilà, je trouvais qu'il y avait un peu moins de fantaisie, tu vois.
Bah, c'est pas disons qu'il prend les... Insigne un peu en dessous et Mertens sur le banc, c'est sûr que bon.
Voilà. J'ai trouvé Milik un peu perdu aussi. Oui. Il a un peu erré sur le terrain et j'ai l'impression qu'ils ont un peu de mal à le trouver. Ça, c'est un autre problème aussi qu'il va falloir que Ancelotti va devoir régler. Et bon, ça, c'est un problème pour le Kroenke aussi, mais latéraux.
Ouais.
Voilà, parce que Isai, c'était pas encore ça. Mario Rui, bon, il alterne des fois les bons matchs, les mauvais. Après, voilà, on sait que c'est pas non plus une alternative crédible à long terme.
Non.
Même s'il dépanne depuis la blessure de Goulam.
Qu'ils attendent avec impatience.
Oui. Mais c'est vrai qu'au moment, les latéraux, c'est aussi un problème. Voilà, Ancelotti va devoir aussi régler ça. C'est sûr que le mec, voilà, comme tu dis, Naples en avant sur le jeu, sur l'identité, sur plein de choses par rapport à la Roma. Mais, tu sens aussi qu'il y a encore 2-3 détails à peaufiner. Et je pense que Ancelotti en est conscient, parce que c'est vrai que Milik hier, tu sens qu'il est un peu, en italien, on dit souvent qu'il, voilà, c'est un poisson hors de l'eau. Voilà, c'est une expression qu'on utilise souvent, ouais. Et c'est vrai qu'hier, on l'a senti un peu perdu, tu vois, sur le terrain. Il n'arrivait pas à se trouver. Et... bon, voilà, comme je te dis, quand il signait un peu en dessous, il n'y avait pas Mertens. Bon, Callejon, c'est pas non plus le meilleur fantaisiste au monde. Donc, c'est vrai que ça manquait un peu de créativité. Amsic, je les trouve aussi, voilà, pas assez vertical, un peu lent aussi dans ses
transmissions. Ah, ça va avec sa saison, hein. On avait fait un sujet une fois, c'est vrai que.
Et son âge aussi, peut-être, hein, ouais, parce que c'est vrai que là, honnêtement, c'est quand même plusieurs matchs où, je le trouve vraiment lent dans ses idées, dans la transmission, dans les balles qu'il donne, dans les passes, et ça ralentit souvent le jeu, et c'est vrai que, c'est sûr que c'est un totem à Naples, c'est un grand joueur.
C'est un statut intouchable.
Voilà, c'est le meilleur buteur du club, hein, devant Maradona, donc ça parle tout seul. Mais c'est vrai qu'aussi, au bout d'un moment, on devrait aussi se poser la question. On sait qu'il a été à deux doigts de signer en Chine l'été dernier. Mais là, c'est vrai que, on a souvent parlé d'ailleurs dans les podcasts précédents, je me rappelle, on disait que Amsic, c'était assez compliqué cette année. Et d'ailleurs, t'as raison, parce que c'est vrai qu'encore hier, moi, pour l'avoir bien observé, je l'ai trouvé, assez décevant, mais dans, comme tu dis, dans sa lignée des matchs précédents.
Bon, écoute, on verra. La chance du Napoli, c'est d'avoir déjà pris beaucoup de points avec ces petits réglages encore à faire. Donc,
Oui.
c'est vrai qu'il n'y a pas de situation d'urgence à ce niveau-là et les choses devraient se mettre en place tranquillement. Et c'est vrai que on les attend non plus comme le grand rival de la Juve, parce qu'il y a déjà 6 points au bout de 10 journées, mais au moins un club qui va animer cette Serie A et
Oui.
puis peut-être. La Ligue des Champions, s'ils parviennent à
Le
renverser
match face au
le.
PSG va être
Exactement.
hein, moi je suis très impatient de ce
Qui
match.
sera dans un peu plus d'une semaine.
Exactement.
Du côté du Milan, alors on l'a réclamé aussi dans le podcast précédent, ce que je disais en préambule lors du sommaire. On a enfin vu Higuain accompagné d'un autre attaquant au début d'un match, puisque ça avait déjà eu lieu en cours de match, aller sur des quarts d'heure, des 20 minutes de fin de match. Là, il avait décidé de faire confiance à une doublette Coutrone et Higuain dès le début du match face à la Samp. Alors, il y a eu du bon et du moins bon. Je sais pas si t'es d'accord. Je trouve que
Dis-moi.
dans le bon, il y a évidemment cette action de la passe décisive de Coutrone pour Higuain qui est assez remarquable, qui m'a fait penser à l'inverse, la passe d'Higuain à
La Roma.
Coutrone contre la Roma. C'est vrai, c'est un peu le même style.
Oui, c'est vrai, exact.
Voilà, dans la surface comme ça. Dans le moins bon, c'est vrai qu'ils ont. Alors dans le bon toujours, je peux continuer. Il y a le fait que sur les centres, il y avait quand même beaucoup de présence dans la surface. Et ça manquait un peu lors des matchs précédents, puisque si je dis pas de bêtises, Coutrone marque sur un centre de Souzo,
Exactement.
avec Higuain qui était déjà dans la surface, qui attire des défenseurs. Et puis il y a
Exactement.
aussi une grosse occasion en deuxième mi-temps d'Higuain au second poteau. Au second poteau, par contre, pardon, avec Coutrone qui lui embarque des défenseurs au
Oui.
premier. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Par contre, ils ont assez peu combiné ensemble. Je regardais un petit peu tout à l'heure. Ils se sont échangés 5 ballons. Donc c'est vrai que c'est assez faible sur une rencontre avec notamment Coutrone qui est censé jouer très proche d'Higuain. Et puis alors, pour boucler mon observation de ce match-là, avant de te laisser la parole, Guillaume, moi, l'impression que j'ai eue, en revoyant un peu, parce que j'ai vu le match, et ensuite j'ai revisionné certaines parties du match,
Tu t'es régalé une deuxième fois.
ouais, non, c'était un match très intéressant, hein, et puis
Oui, c'était un très
la
bon
Samp, il y a
match,
quand
ouais.
même des choses, voilà, aussi avec Gianpaolo qui sont, voilà, intéressantes à observer et à décortiquer. C'est le fait que j'ai l'impression que c'est ce genre de match que Souzo sort 4 ou 5 fois par saison, où il est injouable, où il fait très mal, où ses frappes, je rentre sur mon pied gauche, ça marche. Et je
Robin.
me, voilà, et je me dis, bon, il y a encore du boulot, quoi.
Alors, ça y est, cette observation est
C'est terminé,
terminée.
ma dissertation est terminée.
Alors, écoute, déjà, pour comparer les deux équipes, juste dans le jeu de possession, tu vois, moi, c'est ça qui m'a marqué aussi. C'est que certes, le Milan a gagné, mais tu vois, j'ai vraiment vu la différence, et d'ailleurs, je l'ai observé sur Twitter, entre une possession utile et une possession stérile. Enfin, depuis le début du. C'est beau, ça, d'ailleurs, je ne l'ai pas préparé, mais je trouve ça très beau. Et en plus, ça rime, je suis très content.
T'es fier de toi.
Exactement. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, tu te rappelles, on l'a souvent souligné, la possession stérile du Milan.
Oui.
Le 4-3-3, Donnarumma, ballon latéraux, aux ailiers, on repique dans l'axe. Voilà, c'était prévisible, lent, voilà, stéréotypé, on le savait. Et hier, voilà, Gattuso l'a dit après le match, c'est vrai que Gianpaolo, on sait que tactiquement, elle est très préparée. Et je ne sais pas ce que tu as pensé des sorties de balles de la Samp. Alors, on les connaît, c'est un fait. Moi, je suis toujours bluffé quand je les vois arriver à San Siro en patron et à sortir le ballon en deux, trois touches. Ça triste, voilà, c'est en triangle, ça va vite, ça verticalise quand il faut, les temps de jeu sont parfaits. Les deux buts, c'est un régal. Parce que même le but de Quagliarella, ça arrive sur une verticalisation de Saponara qui est superbe. Alors, Saponara qui renaît de ses cendres,
Ouais.
on n'avait pas vu depuis longtemps. Et le premier but, pareil, même si voilà, Calabria se laisse un peu berner bêtement par Saponara, ça vient aussi d'une belle action où je pense que la Samp, sans mentir, a dû confisquer le ballon à Milan pendant à peu près 1 minute, voire 1 minute 30.
Ouais.
Donc voilà, moi, c'est déjà la première chose que je souligne, la différence de possession entre Milan et la Samp. Après, voilà, la grande nouveauté, comme tu dis, c'était ce 4-4-2. Alors certes, c'est vrai que moi, j'ai trouvé que Higuain et Coutrone n'avaient pas beaucoup échangé le ballon. Bon, la statistique, tu m'as dit 5 ballons, donc elle parle d'elle-même. Après, voilà, tu l'as dit toi-même, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que Coutrone, apporte aussi à Higuain le fait d'enlever des défenseurs. Dans les espaces, il t'attire beaucoup de joueurs. Parce que tu te rappelles, Higuain, on l'a vu combien de fois, on l'a vu entre 3 à 4 joueurs tout seuls, perdus, ouais. Sans personne derrière lui. Ce jeu de Çalhanoğlu sur les côtés trop éloignés. Il n'y avait aucune décharge en pivot. Et c'est vrai que quand Coutronnet joue, tu as plus de présence à la surface, il t'attire forcément un ou deux défenseurs. Et c'est vrai qu'hier, même Souza, tu vois, le but qui marque aussi, ça vient d'une superbe transversale de Ricardo Rodriguez. Mais tu as aussi Higuain et Coutronnet dans l'axe qui t'attirent les défenseurs, qui les font reculer. Donc forcément.
Qui les empêche de sortir sur.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Alors après, la question que. Voilà, j'ai vu aujourd'hui du côté des tifosi du Milan, c'est est-ce que le 4-4-2 est viable hein, là, pour la suite ? Alors, c'est compliqué dans le sens où le gros bémol, c'est le fait qu'il n'y ait plus de numéro 9 sur le banc. Ça veut dire que si Coutronnet ou Higuain se blesse ou voilà, ou un coup de moins bien, hier Coutronnet est sorti, bon, bah, c'est Castillejo qui rentre. Bon, c'est pas un vrai 9.
C'est là où tu regrettes Mbanyang. Hein.
Entre autres, on va dire ça comme ça, mais et c'est surtout pour ça qu'à mon avis, si ça continue dans ce sens-là, il y aura, je pense, une recrue peut-être cet hiver.
Le petit Paquetel, il peut pas jouer.
Non, je pense pas.
En soutien d'un attaquant, non.
Ouais, peut-être en soutien mon numéro 9 comme ça en 4-4-2, ou alors peut-être en 4-4-1-1 éventuellement, parce qu'hier Gattuso, de ce que disait Sky. Au début du match, c'est que Gattuso voulait que Coutronnet joue derrière Higuain. Tu vois, pour pas non plus qu'il se marche dessus. Après, bon, Coutronnet, le problème, c'est que si on l'enlève de la surface, il vit plus Coutronnet. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que ballon au pied, techniquement, on va pas se mentir, c'est un peu faible. Ça, c'est évident. Mais après, voilà, est-ce que c'est pas une entente aussi à peaufiner? Est-ce que tu penses que c'est pas leur premier match du coup, pas leur premier match, on va dire du début, donc 90 minutes quasiment, même si Coutronnet est sorti. Est-ce que tu penses qu'il faut pas aussi du temps pour qu'il y ait des automatismes, ou est-ce que tu penses que Gattuso va vraiment, parce que on rappelle que Milan joue mercredi hein, contre le Genoa, et c'est un match, bon, je vais pas dire vital, on va dire fondamental pour le classement parce qu'ils sont passés cinquième d'un coup comme ça. Et s'il gagne, il se rapproche de la quatrième place. Il y a une égalité avec la Lazio, donc. Est-ce que, à ton avis, Gattuso va garder le 4-4-2 mercredi, ou est-ce que tu penses qu'il va revenir à des bases, à 4-3-3? Parce qu'on se rappelle que dimanche, c'était assez urgent, donc voilà, il a un peu fait ce qu'il avait. Mais je ne sais pas ce que tu en penses sur le 4-4-2, viable ou pas.
Bah, c'est difficile à dire, parce qu'on n'est évidemment pas à sa place. Et voilà, il y a des données physiologiques, physiques, qu'on ne maîtrise pas sur l'état de forme des joueurs, etc. Ce qui est notable, c'est que ce qu'on observait, nous, a été observé par beaucoup de gens, évidemment. On est loin d'être les seuls à avoir vu qu'Higuain était beaucoup trop isolé. Et que là, quand il joue avec un attaquant à ses côtés, ça se passe mieux et il est moins frustré, il reçoit plus de ballons, il est un peu plus libre.
Il a plus d'occasions aussi. Hein.
Voilà, il a plus d'occasions. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce 4-4-2, moi, m'embête quelque part parce que ça exclut Çalhanoğlu du 11 titulaire. Et moi, je dois t'avouer que Çalhanoğlu, pour moi, c'est dans les 3-4 meilleurs joueurs du Milan. Vraiment un très très bon joueur. Et aujourd'hui, moi, je le trouve sous-utilisé à Milan, à la fois en termes de positionnement, c'est-à-dire que le mettre ailier gauche, c'est un gâchis monumental. Et à la fois aussi en termes même de temps de jeu, on peut l'appeler comme ça, parce qu'il n'est pas un titulaire indiscutable de l'équipe, même loin de là. Voilà, si on prend le total, hein, Milan a joué 9 rencontres, c'est ça ?
Ouais.
Donc il est susceptible d'avoir joué 9 fois 9, 810 minutes. Il en est à 550. Donc c'est-à-dire qu'il joue pas tous les matchs, il est pas toujours titulaire, et en plus il sort souvent en cours de match. Je t'avoue que moi, c'est un joueur qui m'impressionne, Çalhanoğlu. Je le trouve très bon techniquement, dans l'orientation du jeu. Il apporte beaucoup de choses. Il a une excellente frappe de balle. Il tient bien les coups de pied arrêtés. Enfin, voilà, c'est quand même un joueur qui t'apporte beaucoup de choses dans le collectif et dans ce qu'on va appeler le facteur décisif d'une équipe. Et c'est vrai que de rester sur ce 4-4-2, je pense que, effectivement, il pourra pas continuer toute la saison avec un 4-4-2 s'il n'a pas d'autres solutions que Coutronné et Higuain, parce que tu peux pas faire toute une saison avec deux attaquants titulaires et aucune réserve derrière. Maintenant, l'autre solution, si on veut continuer à avoir un joueur proche d'Higuain et qu'il ne soit pas isolé, parce que si on met pas le 4-4-2, c'est-à-dire quoi, retour au 4-3-3, on a bien vu que c'était très compliqué depuis le début de la saison, avec des ailiers qui jouent trop loin d'Higuain.
Avec un jeu trop lisible,
beaucoup de centres, mais un centre quand tu joues contre des défenses à 3, avec des milieux en plus qui se projettent pas ou pas suffisamment, voilà, c'est trop d'impuissance dans ce Milan en 4-3-3 là depuis le début de la saison. Donc l'autre solution, c'est d'avoir un Çalhanoğlu qui joue derrière Higuain en position de 10 ou même
4-3-1-2,
de 9,5, peu importe, mais plutôt 4-2-3-1 du coup, parce que 4-3-1-2 t'es obligé de jouer avec aussi Coutronné, donc
4-2-3-1 on le dit depuis les BSC,
voilà, c'est ça, mais c'est aussi une possibilité que j'aimerais voir. Après, peut-être que ça ne marchera pas, ça tant qu'on l'a pas vu ou pas testé, on peut pas savoir, mais voilà, je trouve que Gattuso, il a quand même des solutions, mais que pour l'instant il les utilise pas assez. Alors ça promet pas, cette doublette offensive. On verra si ça va durer contre face au Genoa et le week-end prochain et dans les semaines qui viennent, etc.
Après, ouais, en plus ils vont à Udine et ils ont un combo Lazio-Juve qui va être assez sympa. Mais pour aller dans ton sens, moi ce qui me gêne aussi avec ce 4-4-2, c'est que non seulement il enlève Çalhanoğlu, donc c'est un joueur l'un des plus techniques de l'équipe, et surtout, alors il était blessé pour ce match, mais il enlève aussi Bonaventura. Parce que Bonaventura, tu le mets où? Tu le mets à la place de Kessi dans un milieu axial?
Non.
Est-ce que tu le mets peut-être Bilia? Non. Est-ce que tu le mets sur le côté?
Côté mais gauche, du coup, éventuellement.
Ouais, mais du coup, tu enlèves l'Axalt qui a fait un bon match hier. Alors ça, c'est pas titulaire, il a fait un bon match. Alors du coup, tu enlèves Çalhanoğlu qui pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, jouer à ce poste, même s'il serait évidemment gâché. C'est moi, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a gêné aussi, ce qui me gêne à ce 4-4-2, c'est que ça t'enlève quasiment tes deux joueurs les plus techniques, parce que c'est vrai que Bonaventura aussi est un super joueur.
Ouais.
Techniquement, c'est aussi un des leaders techniques de cette équipe. Et si tu joues comme hier, alors t'as Laxalt, Kessi, Bilia. Bon, et
notre ami Bilia.
Ouais, notre ami. Moi, je l'aime bien, Bilia. Je sais qu'il l'aime pas. Moi, je l'ai encore trouvé bon hier. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il prend l'équipe en main. Donc, bon, écoute, moi, je pense qu'un jour, on se fera un podcast spécial Bilia. ça serait trop long. Mais après, ce qui est certain, pour le coup, on verra bien ce qui va se passer mercredi soir pour la Copa, va être très intéressant. Mais le 4-3-3, voilà, c'est plus possible, ça c'est évident. Moi, pour l'avoir vu le derby au stade, moi, le fait d'avoir un tir à la 84e minute, le premier tir cadré, faut se dire quand même que Milan hier a mis 3 buts à la Samp, et c'était la meilleure défense de Serie A. Donc ils ont réussi à passer 3 buts à une équipe qui avait une défense très solide. Le problème, et c'est toujours le même, c'est qu'ils en prennent deux. Un ou deux minimum depuis, je crois, 10 ou 11 matchs. Et c'est pas possible. Ouais, c'est la première fois depuis 1946, je crois. Et je crois que ça fait précisément 15 matchs de Serie A que Milan prend un but par match. Et c'est moi, je trouve ça assez aberrant, pas mentir, à ce niveau-là, de pas réussir à garder ta cage inviolée.
Avec un Calabria en grande difficulté encore.
Ouais, sur le premier but, il se laisse berner, mais bêtement, il peut pas se jeter comme ça et laisser sa poignard rentrer sur son droit.
Alors on sait que Conti est revenu dans le groupe, donc faut espérer qu'il puisse. Oui, il faudra du temps, mais.
Écoute, il se murmure qu'il devrait jouer avec la Primavera ce week-end.
Ouais.
Ce serait un premier pas, mais c'est vrai que Conti, on rappelle qu'il vient de grosses blessures. Après, voilà, je me rappelle qu'on avait parlé tous les deux en off, et c'est vrai qu'il m'avait pris aussi le cas de Florenzi,
oui,
qui était revenu, et c'est vrai que ça peut laisser porter espoir, parce qu'on sait que Conti, c'est quelqu'un qui mise beaucoup sur sa course, sur ses centres. On sait que, voilà, tu te rappelles avec l'Atalanta, comment il galopait sur le côté droit.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il va falloir qu'il reprenne ce rythme, cette accélération qu'il avait. Et il va falloir du temps. Mais après, voilà, moi, j'ai gardé cette phrase de venant de toi, qui m'avait dit, mais Florenzi, avait lui aussi eu, voilà, on sait, ses opérations. Et pourtant, voilà, aujourd'hui, on voit à quel niveau il est. Donc, c'est vrai que Conti peut être une solution, mais voilà, Milan, on est au mois de, on va être quasiment début novembre, et c'est vrai que bon, bah, tu repars un peu en chantier, quoi. Parce que tu sais pas en quel schéma tu vas jouer, tu sais pas quel joueur. Alors, est-ce que aussi l'équipe est bien construite? Tu vois, est-ce que bah, tu as des joueurs qui vont pas à leur poste, il y en a trop à certains, il te manque maintenant numéro 9. Il y a beaucoup de questions. Après, Gattuso a su réagir dimanche, c'est un fait, il faut le souligner, c'était mieux. Après, bon, ils prennent 2 buts, et on sait généralement, en Serie A, le classement final, tu peux être certain, et je pense que ça fait ça depuis à peu près 2010-2011, ça va tout avec la meilleure défense. Donc si tu as la meilleure défense, t'es premier, la deuxième meilleure, t'es deuxième, c'est comme ça. Généralement, le classement s'établit comme ça. Et le problème, c'est que Milan, ça prend 1 but par match, minimum. Donc il va falloir qu'ils arrivent à régler ça.
Pour l'instant, mais, ils en sont à 13 buts encaissés, et c'est les plus mauvais à ce niveau-là des 8 premiers avec la Roma.
Ouais, voilà. La Roma, ils en sont à
13 buts aussi encaissés.
À 13 buts aussi, bon. En marchant dans la main, ça fait plaisir.
<C'est ça.
rire> Mais voilà, le 4-4-2, pour en dans 4-4-2, bon, on verra bien mercredi, mais je sais pas. Moi, d'exclure tes joueurs les plus techniques,
c'est toujours un peu embêtant quand tu,
ouais, mais
quand tu regardes le match après. Quoi.
Alors, certes, il est pas bon. Alors, Çalhanoğlu, tout le monde lui tombe dessus depuis des semaines, et tout le monde, hein, à juste titre, parce qu'il est pas bon. Mais j'ai envie de dire, il est pas bon parce qu'il est pas à son poste.
Ouais, bien sûr.
Évidemment. Il est pas à son poste.
Après, regardez, on peut essayer de mettre Miralem Pjanic milieu droit à la Juve. Je suis pas sûr qu'il soit excellent non plus, quoi.
Exactement. Mais comme Coutrone a joué ailier gauche contre l'Inter quand il est rentré. Enfin, c'est comme mettre Inzaghi à gauche. Ça a aucun sens. Coutrone, c'est un joueur de surface. Il a touché 2 ballons dans la surface contre la Samp, une passe décisive et un but. Donc voilà. Et Çalhanoğlu, Il est fait pour jouer dans le cœur du jeu. Tu peux pas le mettre sur un côté. C'est un gâchis total. Et on sait que c'est un super joueur, Çalhanoğlu. Et encore le but que Milan marque contre le Betis, dans ce terrible match contre le Betis, ça arrive encore d'une action dans l'axe. C'est Suso qui décale à droite Castillejo et qui centre pour Coutrone. Alors soit tu mets 2 attaquants, ou soit, comme tu as dit, il faut un joueur en position de 10.
Bon, écoute, on verra si Gattuso nous a écoutés. Il y a peu de chance, mais rendez-vous. Donc du coup, c'est mercredi. Hein,
cool. Exactement, mercredi 20h30 contre le Genoa, le match en retard de la première journée.
Ouais. Ok. Alors, on va passer directement à la Lazio pour finir sur la Serie A, et puis on fera le sujet Conte à la fin.
Ouais.
La Lazio qui vient de prendre un sévère 3-0 contre l'Inter. Alors, il y a plusieurs choses à noter. La première, c'est que ils sont en très grande difficulté contre les grosses équipes, et ça dure depuis quelques années et saisons maintenant.
Ouais.
On sait que cette saison, ils ont déjà perdu 4 matchs en 10 journées, pourtant ils sont 4e avec 18 points, mais en ayant déjà perdu 4 matchs, et les 4 matchs étaient contre le Napoli, contre la Juve, contre la Roma, et donc contre l'Inter, avec à chaque fois quand même une différence de niveau qui est assez marquante. Il y a que les 20 minutes aller du match à Turin contre la Juve qui avait été vraiment intéressante. Sinon, voilà, il y a une différence qui est abyssale ce soir, par exemple, entre les deux équipes. Il n'y a pas de
très vilaine défaite.
Il y a, voilà, il n'y a pas grand chose à retenir. Le deuxième point, alors ça, c'est une première chose, le fait d'avoir une équipe qui ne peut pas passer un cap face au gros. Et qui, de fait, aura encore peut-être du mal à se qualifier pour la Ligue des Champions, à atteindre cette 4e place qu'il souhaite tant, parce que contre les gros, bah, c'est très compliqué. Il y a certains joueurs qui atteignent peut-être là leur limite en termes de niveau, d'autant plus que, et ce qu'on disait en off tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement du podcast, c'est que voilà, l'adio séduisante de la saison passée a totalement disparu des radars.
Mais comme tu dis, et surtout ce soir aussi, pour avoir vu le match en entier, bah, il te manque Milinkovic Savic. Alors il est là, mais tu le vois pas.
Ouais.
Et il manque terriblement, et forcément, quand il te manque un joueur pareil, c'est compliqué. Immobilier a pas fait un grand match non plus. Non. Il rate beaucoup d'occasions, beaucoup de mauvais choix. Je sais pas ce que t'as pensé en première mi-temps, mais quasiment c'est 4-5 premiers ballons touchés, c'est que des mauvais choix. Et comme tu dis, c'est vrai qu'on peine aussi à retrouver à Lazio de la dernière, parce que certes ses leaders sont pas non plus en grande forme, malgré que Immobilier marque toujours ses buts, mais Milinkovic Savic, bon, va falloir aussi en parler, parce qu'on l'a souvent évoqué dans les podcasts précédents, mais on voit pas beaucoup de progrès.
Non.
Si ce n'est aucun, hein, honnêtement. Bah, si tu me demandes un bon match là.
Même dernièrement, Luis Alberto était un peu moins bon aussi. Alors,
ouais, il a été touché,
voilà. Mais Et puis il y a Marusic aussi qui a des années-lumière de ce qu'il faisait la saison passée où il était pas loin d'être le meilleur, alors on va dire latéral droit, même si bon, dans une défense à 3, t'es autant milieu que latéral, mais joueur de côté droit dans l'aspect défensif, on va dire ça comme ça. Là, cette saison, c'est pareil, il y a des années-lumière du niveau montré la saison passée. Et tu sais que il y a un truc qui m'est revenu en tête, c'est cette défaite à Salzbourg. Tu sais, où ils se voyaient qualifiés en Europa League.
Je m'en fais toujours parmi ces trois buts en 10 minutes.
Hein. C'est ça. Et j'ai l'impression, parce que la fin de saison a été plus délicate aussi de la Lazio, sans parler forcément que du dernier match contre l'Inter perdu 3-2. Mais en fait, j'ai l'impression que, je vais te faire un comparatif juste après, que le jeu s'est un peu, on va pas dire envolé, mais à ce moment-là, c'est-à-dire que les joueurs ont perdu totalement confiance en eux, et qu'aujourd'hui, ça tient à l'énergie, ça tient parce qu'ils se dépensent beaucoup, c'est vraiment une équipe qui se dépense beaucoup, la Lazio. Ça tient aussi, évidemment, au talent, parce qu'ils ont quand même plus de talent que la une grande majorité de clubs en Italie. Et ça m'a fait penser à une autre défaite dont les joueurs ne sont vraiment jamais remis avant voilà des mois et des mois. Tu sais, le Roma Bayern 7-1 sous Rudy Garcia.
Ah oui, exact. Bah,
en fait, le jeu de Rudy Garcia et de la Roma, qui était si séduisant, avait aussi disparu à partir de ce soir-là. D'une épopée européenne qui avait été cataclysmique. Enfin, pas une épopée du coup sur un match, mais une rencontre européenne qui avait été cataclysmique et qui avait totalement coupé les jambes de l'équipe pendant de longues semaines et de longs mois. Et en fait, je fais ce parallèle-là parce que c'est un peu la même chose, c'est que la Roma avait totalement perdu son identité et son jeu. Et là, j'ai l'impression, pour la Lazio, depuis le début de la saison, que c'est un petit peu la même chose. Alors, est-ce que c'est dans les têtes? Est-ce que c'est purement... ou peut-être Inzaghi aussi, qui s'est dit, bon, voilà, jouer bien ne paye pas forcément, et en laissant des espaces importants, on s'est fait punir par Salzbourg. Mais
à ta défaite, et tu as raison, entre Salzbourg qui était dramatique et rocambolesque, tu peux aussi ajouter à celle de l'Inter l'année dernière,
ouais.
à la dernière journée. Tu as quasiment été quatrième toute l'année, et puis à la dernière journée, tu perds 3-2 chez toi alors que tu mènes 2-1. Et puis tu apprends à être champion. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un énorme coup dur. Alors, on les a vus balader Marseille jeudi dernier, complice aussi de la pauvreté du jeu de l'OM, on va pas se mentir.
Oui, et puis après, il y a quand même aussi, c'est un peu irrégulier depuis le début de la saison, il y a quand même des matchs où ils sont bons. Hein. On n'est pas en train de dire que c'est une mauvaise équipe.
Ah non, pas du tout. Contre l'OM, moi, je les avais trouvés bons. Après, est-ce que le match aussi a pas compté ce soir dans les jambes? C'est possible aussi. Il y a peut-être un peu de ça aussi, un peu de fatigue. Et puis après, bon, le temps était particulier, mais c'est pas une excuse, parce que l'Inter a littéralement dominé sur le sujet. Mais après, c'est vrai que, enfin, au-delà des paroles qu'on peut dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Contre les grands clubs et les grandes équipes, la Lazio n'arrive pas. Et depuis quelques temps quand même, comme tu disais, ça fait quand même quelques temps que ils n'arrivent pas à battre les gros, et c'est un vrai problème. Alors, moi, je suis un peu ton avis aussi. Est-ce que certains joueurs n'atteignent pas leurs limites dans certains matchs? Parce que bon, on se l'est souvent dit, mais sur le papier, la Lazio n'a pas non plus une grande équipe. Si tu prends intrinsèquement chaque joueur...
Non, ils sont bien en dessous de beaucoup. Si tu prends intrinsèquement, ils sont même en dessous du Milan.
Exactement.
Poste par poste.
C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Après, Inzaghi est un très bon coach. Ouais. Il a réussi à créer un collectif qui, quand tu es à sa meilleure forme et à son maximum, c'est vrai, a un jeu très beau et très agréable à regarder. Par contre, arriver à certains grands matchs, et par exemple ce soir contre l'Inter, on a vu la différence entre une équipe qui était mature. Il a fallu du temps, hein, mais l'Inter était mature, solide, c'était très propre, une grande équipe. Moi, j'ai senti vraiment une équipe forte ce soir. Et à la Lazio qui n'a pas réussi à contrer ça. Et voilà, moi, je suis un peu ton avis sur le fait que certains joueurs et même l'équipe en soi arrivaient à un certain niveau d'exigence et de match, et bien peine à répondre parce que l'équipe en face, tout simplement, est plus forte.
Alors, il y a aussi une chose qui me marque, moi, depuis des années, du côté de la Lazio, c'est le faible niveau de la défense, avec des joueurs qui sont vraiment limités individuellement, et puis sur tous les aspects du jeu défensif, ça va de la relance au marquage, au placement sur coup de pied arrêté, au hors-jeu, enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses, je trouve, qui ne vont pas, Et c'est des problèmes qui sont identifiés quand même depuis un petit moment. Et pourtant, il n'y a pas de correctifs vraiment qui ont été apportés cette année au niveau du recrutement. Parce que les Bastos, les Wallace, voilà, on voit un Radu qui est vraiment en grande difficulté aussi. Et là, ce soir.
Asservi, qui est recruté.
Voilà, mais Radu, ce soir, il doit jamais finir le match. Il fait un tacle, les deux pieds décollés sur Politano. Bon, ça doit être un rouge direct. Il s'en
Oui.
sort avec un jaune qui est très généreux. Mais voilà, c'est pareil sur les côtés, les Lukaku, les Dusan Basta, ça fait son temps. Ils ont pris le petit Dourmizi, le Danois, que je connais assez, et qui est un bon joueur, mais qui est blessé de mémoire, qui s'est blessé assez sérieusement. Donc voilà, tant qu'ils afficheront une défense aussi lourde en plus, parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont quand même très lourds, très physiques, mais du coup très lourds, et puis qui ont autant de défaillances individuelles, ça sera difficile, parce qu'un jour c'est Bastos, un jour c'est Wallace, enfin les boulettes, il y en a de façon très régulière. Donc c'est aussi dur de vouloir jouer, parce que évidemment le niveau des attaquants augmente aussi avec les grands clubs.
Évidemment, Icardi
Donc
ce soir.
Icardi s'est régalé, voilà, mais comme
Tueur.
Dzeko peut se régaler dans un derby, comme Higuain pourra leur faire mal, comme Ronaldo peut se régaler, enfin voilà, c'est des manquements importants à cette équipe. Et c'est vrai que on avait parlé lors de cet été en disant, bah, dans les 100 millions d'euros qu'ils espèrent de Milinkovic-Savic, ils vont pouvoir vraiment acheter des joueurs de très bon niveau, notamment dans le secteur défensif, des joueurs allés à 15-20 millions d'euros qui te font passer un cap, à la fois en termes d'expérience, à la fois en termes de sécurité, de caractère. On les a pas eus.
Non.
Donc,
Mais on peut dire aussi, tu vois, l'année dernière, voilà, c'est vrai que c'est le match un peu phare qui reste dans les mémoires contre l'Inter, voilà, le fameux 3-2. Et on sait, on avait vu que ça s'était joué sur des petites choses. C'est vraiment sur des petits détails, sur des faits de jeu, sur plein de choses. Ce soir, la différence était énorme. Il n'y a pas eu débat. Et tu vois, il n'y a pas beaucoup de mois qui sont passés entre-temps, hein. Les équipes ont un poil changé. Mais c'est vrai que autant l'année dernière c'était joué sur pas grand-chose, que ce soir il y avait une différence qui était abyssale entre le deuxième et le quatrième. Donc voilà, est-ce qu'on va pas avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on va pas avoir trois championnats en un entre la Juve toute seule, un duel Napoli-Inter et la suite Lazio Roma Milan qui m'ont l'air quand même assez un niveau, tu vois, un niveau assez équitable, assez
Et
malheureusement
assez
aussi assez
bas.
régulier, assez bas. Et assez régulier, parce que la Roma, on a vu des belles choses, on a vu des mauvaises, Milan, c'est pareil. Et comme tu dis, la Lazio, ça sera 4 défaites déjà, tu me disais. Donc voilà.
Bah, c'est bien simple, hein, entre le quatrième qui est Lazio avec 18 points et la Spal qui est 15e, il n'y a que 6 points.
Voilà. Et
Donc
la Juve,
et la Juve
la
est à
Juve,
des
ils sont tout
kilomètres
là-haut.
devant.
Mais voilà, sur la Lazio, on a tout dit ce soir, honnêtement. Moi, j'ai vraiment été marqué par la différence des équipes. Moi, je pensais pas avoir autant.
Alors, on va boucler là sur cette analyse de Serie A. C'était donc la 10e journée. Un dernier sujet maintenant sur Antonio Conte. Alors que certains médias espagnols ont annoncé très précipitamment hier soir.
Ça s'est un peu refroidi.
Ça s'est un peu refroidi depuis. Alors, c'est toujours difficile de démêler le vrai du faux entre les médias espagnols, les médias italiens. Sur les raisons de ce refroidissement, on va dire, de la piste Conte, qui reste malgré tout d'actualité, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas non plus 50 entraîneurs de très bon niveau sur le marché
Ah non.
en cours de saison. Alors déjà, le point sur la situation du Real, Lopetegui a donc été démis de ses fonctions ce lundi soir. Un communiqué du Real Madrid l'a annoncé. À sa place, et c'est bien précisé, c'est un intérim, donc c'est une solution provisoire, c'est
Un
Solari.
communiqué cinglant.
Communiqué cinglant, ouais.
Hein.
C'est Solari qui prend les rênes de l'équipe. Solari qu'on a bien connu en Serie A aussi lors de
Ouais.
son passage à l'Inter. Et donc, on essaye de voir quelles sont les solutions à long terme que pourrait trouver le Real Madrid. Alors, il n'y en a pas 50, je me suis amusé à essayer de regarder un petit peu
Dis-moi.
ce qui pourrait être fait en fonction de ce qu'il y a aussi sur le marché. Donc il y a évidemment Jardim qui est parti donc de Monaco il y a quelques semaines, il y a Laurent Blanc qui voilà espère toujours un très grand club.
On verra combien de temps ça commence à faire quand même.
Ça commence à faire un peu de temps. Ouais. Il y a donc Antonio Conte, il y a Wenger, mais lui-même dit qu'il n'a plus spécialement envie d'entraîner au quotidien et en tout cas il serait intéressé par un poste plutôt de administratif entre guillemets, ouais. C'est un peu opérationnel quand même, mais voilà dans la direction d'un club. Et puis ça s'arrête à peu près là. Voilà, j'ai fait un tour rapide, hein, mais il y en a sans
Alain, doute. Alain Perrin est pris.
Alain Perrin est pris, bien sûr. Voilà. Pablo Correa va peut-être se libérer assez prochainement, mais blague à part, voilà, c'est
oui, Conte, assez light. C'était Conte, ouais.
Et c'est vrai que Conte apparaît comme la solution la plus intéressante, naturelle, naturelle, mais il y a aussi des choses qu'on maîtrise pas. Alors Ramos a fait une déclaration, je crois que c'était dimanche à la sortie du
Classico, ouais.
Du Classico, en disant que ce qui comptait le plus au Real, c'est pas forcément le côté entraîneur de celui qui prendra le poste, mais c'est de bien savoir gérer et comprendre le vestiaire du Real Madrid. Bon, ça c'est pas forcément le, on va pas dire que c'est pas le fort de Conte, mais il y a eu quand même pas mal de clash ouais. Avec des joueurs. Notamment à Chelsea avec certains joueurs, on sait que ça s'est mal terminé pour certains d'entre eux. Diego Costa, il y avait eu aussi
Fabregas,
il n'y a pas eu Gary Cahill aussi il me semble, où ça s'est pas
Hazard
forcément...
c'était pas
le grand amour, ouais. Voilà, donc il y a Gary Cahill, ça a vérifié, je dis peut-être une ânerie, mais il me semblait qu'il y avait un peu d'eau dans le gaz, donc voilà, donc oui, c'est sûr que le vestiaire du Real, et c'est là-dessus que Zidane a été très très bon, c'est que moi, je demande encore à voir le Zidane tacticien, si tu veux. C'est pas que j'ai pas été impressionné, mais je me pose encore pas mal de questions.
T'aurais du mal à décrire l'empreinte tactique de Zidane.
Qu'il a pu laisser sur le jeu. Par contre, en termes de management pur d'équipe, il a été parfait. Et la petite phrase de Ramos, elle est pas anodine. C'est qu'ils ont été habitués à un certain mode de fonctionnement avec Zidane, où ils étaient beaucoup responsabilisés. Et quand on sait que Conte a plutôt tendance à vouloir tout contrôler et s'immiscer un peu dans tout et etc, je sais pas si ça serait le fit parfait entre guillemets Conte et le Real.
Bah écoute, t'as quasiment tout dit, hein. C'est vrai que tout à l'heure on a posé la question aussi à certains médias français. C'est vrai que bon, Conte on le connaît. Après moi, voilà, je veux pas mentir, moi j'adore vraiment son entraîneur là. C'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup d'amour pour Conte, même avec ce qu'il a fait avec l'Italie, avec le peu qu'il avait,
ouais.
Nous a amené ou nous a emmené à l'Euro 2016, c'était quand même je sais pas comment dire, un événement ou un miracle, mais il avait réussi. Mais c'est vrai que bon, on connaît ses méthodes. Voilà, on sait qu'il est très pointilleux, très méticuleux, très rude. Il tranche dans le vif. Et c'est vrai que bon, l'image collective du qu'on a du Real Madrid, ça c'est ce côté un peu voilà classieux, élégant, voilà, c'est un peu le club, voilà, c'est ce qui se dégage de ce club-là. Et c'est vrai que bon, imaginez d'ailleurs, je sais pas si t'as vu hier sur Sky, ils en rigolaient d'imaginer Conte au Real arriver et tout de suite à l'entraînement crier, donner des ordres, quadriller tout ça,
ouais.
Et comme tu dis, la différence de... moi je suis comme ça sur Zidane, je suis du même avec toi, c'est vrai que autant le Barça de Guardiola et d'autres équipes, tu peux les décrire facilement, le jeu, la tactique. C'est vrai que Zidane, là où il a été exceptionnel, c'est dans son management. Il a laissé la liberté qu'il fallait à ses joueurs, il a fait comprendre à Ronaldo qu'il fallait qu'il se mette sur le banc quand il fallait, mais c'est vrai que tactiquement, moi je suis impatient de le voir ailleurs, tu vois, j'ai vraiment envie de voir quelle empreinte tactique, quelle idée il a. Conte, on les connaît ces idées. Est-ce que ça aurait matché avec le Real, ou est-ce que ça va? Parce que bon, pour le moment c'est Solari, mais c'est vrai que plus tard on ne sait pas. J'ai des doutes. Et d'ailleurs, je pense que Conte aussi en a, parce que de ce qui se disait, de ce qui se murmurait en Italie, c'est que Conte avait déjà refusé. Je te rappelle quand Lopetegui, avant que Lopetegui arrive,
ouais.
Apparemment Conte avait déjà refusé parce qu'il se disait, mais si je vais au Real Madrid, le VCR n'a pas accepté parce qu'ils vont pas accepter mes méthodes. Et lui aussi avait visiblement quelques réticences. Et l'avantage qu'a Solari, c'est bon, bah forcément, il est plus flexible, plus malléable. Il y aura pas les mêmes exigences, parce que ça aussi, c'est un point clé dans le dossier. C'est que quand Conte arrive, bah, il veut son staff, il veut certaines choses, il veut des garanties. que Solari arrive, il est catapulté là comme Zidane l'a été en 2016. Bon, forcément, il va parler avec ses petites talonnettes dans le bureau de Pérez en réclamant telle chose. Conte, bon, c'est vrai qu'on connaît son caractère et c'est vrai que est-ce que ça aurait matché avec Pérez? Ça, c'est aussi un débat. Après, bon, mais du point de vue du style, ce qui est évident, c'est que Conte et le Real ont deux styles totalement différents.
Ouais.
Alors, parfois, on sait que dans un couple, les opposés s'attirent. Là, bon, je sais pas. Moi, après, moi, j'ai trop d'amour pour Conte. Donc,
pour résumer le truc, c'est que en gros, c'est le meilleur entraîneur possible qu'on peut imaginer en termes de CV, de culture de travail, d'exigence, etc. Mais d'un point de vue, on va dire des méthodes,
oui,
du caractère, oui, on n'est pas sûr que ça passe avec le Real. En gros, oui, c'est ça pour résumer la.
Mais après, ça n'enlève rien le fait que Conte est un grand entraîneur. Ça,
oui, bien
moi,
sûr.
J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Enfin voilà, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour Gattuso, pour Di Francesco, parce que c'est vrai que si Conte va pas au Real, bon bah t'auras toujours cette épée de Damoclès,
ouais,
qui va peser constamment, parce qu'on sait que si demain Di Francesco fait les valises ou Gattuso part à Milan, bah ils tenteront quand même, parce qu'après on sait que Conte c'est cher aussi, hein. Alors le Real n'a pas de problème, mais c'est 8-9 millions, hein.
Mais justement, on en parlait lors du dernier podcast où je t'avais dit, bon, est-ce que ça sera faisable,
oui,
financièrement,
exact,
à cause du fair play financier. Je sais pas si t'as vu ce week-end, le Corriere della Sera a expliqué que, bah, en gros, compter, oui, à Milan, faudrait pas trop compter dessus parce que, alors pourquoi Gattuso aussi avait une place un peu sécurisée pour les prochains matchs, c'est que compter, fallait pas y compter, ça coûtait trop cher. Et que les autres alternatives étaient jugées comme pas très crédibles, on va dire, comme Donadoni, comme d'autres entraîneurs italiens étaient jugés pas très crédibles par les dirigeants du Milan. Donc,
mais la seule alternative crédible, comme je dis, sur le marché actuel italien, pour que ce soit la Roma ou Milan, c'est Conte.
Ah, d'autant que Ventura est pris maintenant au Chievo. Donc,
Alors, très bon début, on l'a pas souligné, ouais, mais très très bon début pour l'ami Gian Piero, hein, dont d'ailleurs on ne pardonne toujours pas. Hein. Moi, je ne vais pas mentir, je ne pardonne toujours pas cet affront qui nous a fait à la Coupe du Monde,
la Coupe du Monde. Je te rappelle que c'était les barrages de la Coupe du Monde.
Oui, mais moi, je n'accepte pas.
L'Italie n'était pas à la Coupe du Monde.
Le fait qu'on n'y soit pas allé. Mais bon, ça pour dire que Conte, voilà, normalement, sauf surprise, ne devrait quand même pas aller au Real ou alors.
Ah, tu t'avances à ce point-là.
Bah, des échos que j'ai entendus aujourd'hui,
Sky,
de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Déjà hier, hein, sur Sky, j'avais mis un tweet. C'est vrai que Giovanni Guardala, qui connaît bien Conte, pour l'avoir fréquenté à la Juve, pour l'avoir connu, journaliste, il disait, bon, et il disait hier soir, hein, alors que tu te rappelles, les médias espagnols disaient, ouais, c'est fait.
Ouais.
Accord trouvé. Il parlait même de conférence de presse aujourd'hui.
À 13h30, présentation.
Exactement. Et en fait, lui disait, non mais, moi je ne m'avancerai pas autant. Et ben, aujourd'hui, ça s'est vérifié.
Ouais.
C'est vrai que bon, je pense que s'il vient pas maintenant, alors qu'il est libre, j'ai du mal à l'imaginer en décembre ou à la trêve. Donc, moi je pense pas qu'il ira. Après, bon, on verra bien, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais je pense pas qu'il ira.
Bon, et ben sur cette parole d'optimisme pour les supporters du Real Madrid que va s'achever ce 13e épisode du podcast Calcio
et du coup, mais oui. du coup, si Conte vient pas, Solari.
Oui.
Bon. Ouais.
Ah, d'accord. OK.
C'est bon?
Oui, je l'ai. C'était,
ah ouais, c'est bon, bah, je voulais juste finir avec ça.
C'était, ouais, c'était assez moyen, hein, on va pas se mentir.
On termine là-dessus.
Voilà, on termine joyeusement là-dessus. on se retrouve donc la semaine prochaine. On débriefera la journée de Serie A. Cette semaine, il n'y a pas de journée, hormis le match qui doit être rattrapé de
Milan, ouais,
de Milan, Genoa. Il n'y a pas de journée ou de Coupe d'Europe en milieu de semaine. Donc, on revient lundi prochain pour débriefer ce qui sera la 11e journée de Serie A. Est-ce que tu as la journée de Serie A sous les yeux, Guillaume?
Là maintenant?
Oui. Ben non, tu ne l'as pas, bien entendu.
Non, je ne l'ai pas. Ben parce non, que je sais que tu vas me la dire.
Ben bien sûr, parce que moi, tu vois, là, je gagne du temps, et évidemment, je trouve.
La journée. Je pense qu'il va y avoir des jolis matchs la semaine prochaine.
Alors, la semaine prochaine, nous avons droit. Est-ce qu'il y a un choc important? Ben écoute, le match le plus important, ce sera Fiorentina-Roma. à 18h. Alors ça commence
18h
vendredi soir, Naples Empoli. Alors Empoli, ils viennent de jouer la Juve et donc ils enchaînent par Naples, c'est assez sympathique. Ensuite, nous avons droit à Inter Genoa, donc Gênes thématique Milan pour la
samedi
semaine.
Du coup.
Ouais, samedi à 15h.
Ouais, classique
ensuite,
pour l'Inter. Ouais.
Samedi 18h, Fiorentina Roma, à 20h30, Juventus Cagliari. Le dimanche à 12h30, un Lazio Spal. À 15h, notre superbe multiplex de 3 matchs avec Chievo Sassuolo, Parme Frosinone, Sampdoria Torino. À 18h, Bologne Atalanta. Et à 20h30, Udinese Milan. Et puis, on rappelle quand même que la semaine suivante, il y aura quand même des matchs assez alléchants comme Atalanta Inter, Roma Sampdoria et surtout un petit Milan Juve. Pour conclure,
le 11 novembre.
Voilà, donc ça, on verra. On verra ce que ça donnera. Ouais. Vous pouvez donc nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud. Et je crois que j'ai fait le tour. C'est déjà pas mal. Vous pouvez aussi nous retrouver à titre individuel sur Twitter. Guillaume, ton alias, c'est Guillaume.
Guillaume MP.
Exactement. Et moi, c'est Johan Crochet. Vous pouvez donc nous retrouver, on parle assez régulièrement de la Serie A en dehors de cette émission. On se dit donc à la semaine prochaine, et puis d'ici là, profitez de la Serie A. Salut Guillaume.
Salut à tous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.